Bonjour et bienvenue dans ce podcast Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et bien-être, et je pratique le yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, je donne la parole à des passionnés de yoga pour échanger autour de thématiques liées à notre quotidien. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du yoga et du surpoids. Parce que soyons honnêtes, on voit peu de personnes grosses dans les cours de yoga en France, et l'image de la yogini mince en legging et en brassière est bien ancrée, en particulier sur les réseaux sociaux, même si ça ne correspond qu'à une partie des pratiquants et pratiquantes de yoga. J'ai voulu laisser la parole à deux professeurs de yoga qui s'intéressent de près à ce sujet et qui proposent des cours inclusifs. Juliette Assante se décrit elle-même comme potelée, et elle a créé sa plateforme Smiling Yoga, avec comme sous-titre « Le yoga pour tous les corps ». Alice Claire, elle, donne entre autres une fois par semaine pour le collectif Gras Politique des cours de yoga destinés en priorité et adaptés aux personnes grosses. On a échangé toutes les trois et c'était un vrai plaisir. Bonjour Juliette, bonjour Alice, bienvenue dans Yoga et nous. Je suis ravie de vous accueillir toutes les deux pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur. Alors d'abord, j'aimerais connaître votre parcours personnel à toutes les deux avec le yoga. On peut peut-être commencer par toi, Juliette. Est-ce que tu peux nous raconter quand et comment est-ce que tu as découvert le yoga? Et puis peut-être nous dire ce que ça a changé dans ta vie et puis dans ton rapport à ton corps notamment.
Oui, bien sûr. Bonjour Laura, bonjour Alice. Merci pour l'invitation sur ce podcast. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de yoga. Donc pour ma part, j'ai commencé il y a 5 ans. Suite à une blessure au genou, j'avais besoin de me remettre un peu en forme. Donc j'ai testé pas mal de disciplines à cette époque, de la boxe, de l'aquabike, du vélo en salle, des bootcamps et du yoga. Et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette discipline qui, même si au début me paraissait un peu technique et je me sentais pas trop à ma place, m'a permis rapidement de pouvoir me reconnecter justement avec mon corps et être dans une volonté d'en prendre soin. Et donc de plus être dans ce schéma de « je fais du sport pour me punir » ou « parce qu'il faut que je fasse du sport » et autres. Mais ça devenait vraiment un rendez-vous hebdomadaire privilégié avec moi-même qui me permettait de pouvoir prendre soin de mon corps et puis surtout de mon esprit. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette discipline grâce à ça. Ça combinait vraiment les deux. Et puis j'avais aussi le sentiment de me faire du bien sans me violenter, sans être dans l'excès physique et autres, et d'accepter les progrès que mon corps avait envie de faire séance après séance. Et puis après, j'ai continué plus ou moins régulièrement à pratiquer le yoga au cours des 5 dernières années, jusqu'à choisir de faire une formation en 2018. Qui n'avait pas du tout pour vocation de me faire devenir prof. Enfin, j'avais vraiment fait cette formation plus pour ma connaissance personnelle, plus en termes de développement personnel, pouvoir aller plus loin dans cette pratique. Puis en fait, de fil en aiguille, je me suis découvert une vraie passion pour l'enseignement. Voilà un petit peu comment je peux introduire ma découverte du yoga.
Merci Juliette. Alors Alice, est-ce que toi aussi tu peux nous raconter comment tu es devenue prof de yoga? Et puis surtout, comment tu t'es orientée vers un yoga plus inclusif et pourquoi tu travailles notamment avec le collectif Gras Politique pour les cours qui s'appellent Yogra?
Oui, bien sûr. Donc bonjour Laura et Juliette, merci beaucoup de partager ce moment. Par rapport à mon parcours, j'ai commencé le yoga quand j'avais 11 ans. J'avais fait beaucoup de danse classique en étant enfant, donc une discipline très rigoureuse. Et il y a un moment où je voulais plus faire de danse parce que plus je grandissais et donc plus les filles autour de moi grandissaient, plus elles étaient maigres, voire entre guillemets trop maigres. Enfin, ça venait beaucoup de restrictions de la prof de danse où j'entendais justement la professeure de danse dire « Est-ce que ta maman te resserre ? Est-ce que t'es un peu plus ronde que les autres ?» etc. Donc ça a mis énormément de pression sur mon corps. Et donc le yoga est venu, donc toujours une pratique dans la souplesse et la force, donc qui sont communs entre la danse et le yoga, mais avec plus de bienveillance. Et donc ça venait en fait en remplacement de la danse classique. Et donc j'ai continué en étant adolescente, donc j'ai commencé par du hatha, j'ai fait aussi du fly yoga. Après je me suis mise au vinyasa et je n'avais jamais particulièrement intellectualisé cette démarche de faire du yoga. C'était plus une activité extrascolaire de jeune adolescente. Mais je suis partie quand j'avais 19 ou 20 ans aux États-Unis, à San Francisco, et j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, et je me sentais très seule. Et donc le yoga m'a permis justement de me reconnecter à moi, et notamment dans des problèmes de troubles du comportement alimentaire, où ça m'a permis de me réapproprier mon corps. Et donc quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai d'abord réglé mes problèmes de troubles du comportement alimentaire, et ensuite je me suis rendu compte que le yoga avait beaucoup à voir là-dedans. Et donc, j'ai intensifié énormément ma pratique, donc en faisant de plus en plus, en m'intéressant de plus en plus au milieu, jusqu'à me rendre compte que non seulement ça m'avait permis de sortir de mes troubles du comportement alimentaire, mais aussi qu'il y avait quand même une pression sur le corps dans le yoga, où toutes les femmes, parce que ce sont majoritairement des femmes dans les studios, étaient minces, souples, blanches, donc plutôt caucasiennes, etc. Et donc je me suis rendu compte de comment ça se fait que quelque chose qui m'a autant aidée peut aussi ramener à des injonctions sur le corps et la beauté. Et donc quand j'ai décidé de faire mon teacher training, je me suis dit que je pouvais pas faire un yoga justement très blanc, très souple, très mince, etc. et que ça convenait pas du tout à mes valeurs, même dans mon chemin personnel en fait. Et donc c'est venu assez naturellement, directement après ma formation, j'ai démarché Gras Politique en justement leur disant, j'ai vu que vous aviez arrêté les cours de yoga, est-ce que vous voulez une nouvelle professeure? Et toutes les femmes de Gras Politique étaient complètement pour et partantes, et justement en leur expliquant un peu mon parcours, ça les a touchées je crois.
Vous avez toutes les deux une envie commune de proposer des cours de yoga qui soient plus inclusifs, notamment pour tous les corps et toutes les morphologies. Est-ce que vous avez clairement l'impression, comme tu l'expliquais un petit peu Alice, que le yoga est trop peu inclusif, en particulier envers les personnes grosses? Et pour vous, à quoi ça tient? Est-ce que c'est d'abord une question d'image du yoga, notamment celle qui est véhiculée par les réseaux sociaux?
Alors moi, oui, déjà, je suis comme Alice, j'ai une volonté de pouvoir proposer du yoga à des personnes de tout horizon, de tout physique et autres, et je pense que ça va au-delà du physique, même si aujourd'hui, on parle de ça. Moi, j'ai récemment eu des personnes qui m'ont approchée pour pouvoir proposer des cours à des femmes voilées, par exemple, qui ne se sentent pas d'aller dans des cours parce qu'elles ont peur de pas trouver leur place, comme malheureusement dans beaucoup de cours de sport. Et en fait, par rapport au yoga... De manière générale, je pense que oui, il y a une image qui est un petit peu biaisée via les réseaux sociaux, où on nous mitraille d'images merveilleuses dans des lieux incroyables, soit en Thaïlande, soit dans des salons XXL avec du mobilier magnifique, et que des postures de folie très contorsionnistes, où la personne est naturellement très souple, très mince, dans la plupart du temps très blanche aussi. Et moi, je me reconnais forcément pas. Je fais du 42-44. Dans ma formation de yoga, on était deux à être bien en chair. Sinon, tout le monde était très mince et très souple. Donc, c'est difficile, en fait, déjà de soi, de pouvoir se mettre dans ce paysage du yoga. Tous les profs qu'on peut côtoyer en tant qu'élève, c'est rare de pouvoir trouver des professeurs avec des physiques un peu plus de la vie quotidienne. Et en fait... Le yoga est malheureusement aussi perçu comme un truc peut-être un peu élitiste en termes de prix. J'entends souvent les gens dire « Ah mais non, mais le yoga c'est cher. Oh non, non, mais les studios ils se rendent pas compte et tout, les prix, machin, tout ceci, cela. » Et je pense que oui, il y a des studios qui pratiquent peut-être des prix très élevés. Mais c'est comme tout, il y a toujours des choses qui sont plus accessibles. Après, c'est juste de pouvoir les trouver et d'y avoir accès en fonction de où on habite. Et je pense que les gens se censurent aussi, rien que par rapport à la souplesse. Et là, ça va au-delà de la forme des corps. C'est plus « Ah ben non, mais moi, je suis pas souple, je vais pas faire de yoga. » Il y a plein de choses qui peuvent faire que les gens n'osent pas se mettre au yoga. Alors, en plus, si on cumule le fait d'être géographiquement éloigné, avec peu de ressources, pas souple, et en plus avec des complexes physiques, et ça concerne, là, pour le coup, aussi bien les personnes très rondes que des personnes très maigres. Moi, j'ai pu voir des élèves aussi très, très maigres qui étaient très complexés, parce que on pense toujours que c'est le surpoids qui est synonyme de mal-être, mais ça peut être à l'inverse aussi. Et c'est un peu un challenge aujourd'hui pour nous, les profs, en tout cas ceux qui ont envie d'œuvrer vers plus d'inclusivité, c'est encore une fois de pouvoir penser à tout le monde sans exclure des personnes. Donc après, on peut se nicher, on peut choisir d'accompagner plutôt tel groupe ou tel groupe de personnes, mais en fait, c'est difficile de ne pas laisser quelqu'un sur la touche, en fait.
Et est-ce qu'il y a un rôle aussi des marques de vêtements de yoga dans cette image un petit peu réductrice et cet idéal de femme mince qui porte super bien le legging et la brassière?
Je pense qu'effectivement, le marketing du yoga, c'est à complètement avoir là-dedans. Enfin, c'est si on remonte un peu à la démocratisation du yoga, c'était très californien, très Hollywood, très très pop star. Enfin, justement, quand on cherche des photos qui datent de avant 2000 de yoga, on tombe sur peut-être Marilyn Monroe qui fait un headstand ou des choses comme ça. Enfin, ça a été complètement glamourisé en même temps qu'on glamourisait les corps et qu'on les amaigrissait. Enfin, je trouve que justement cette culture du corps qui a eu au XXe siècle a été complètement reliée au yoga. Et puis même quand on voit le début des postures de yoga, enfin ça, elle date d'il y a un peu moins d'un siècle pour la majorité. Et donc c'était dans toute cette culture culturiste, très très pop, très glamour. Et donc même les postures de yoga ont été entre guillemets créées en même temps que cette pop culture ultra physique, ultra mince, ultra blanche. Et donc c'est juste qu'aujourd'hui, maintenant que déjà au niveau des statistiques, la population mondiale grossit, il faut s'adapter en même temps que cette évolution mondiale.
Et les marques n'ont pas forcément, en tout cas, notamment les marques de yoga, même si c'est valable dans l'habillement de manière générale, mais les marques n'ont pas forcément suivi cette évolution des corps, en fait. Ils restent sur des tailles qui finalement correspondent à pas grand monde.
Mais complètement. Même, enfin, justement, j'ai regardé ces derniers temps les statistiques de taille française. Le 34, c'est 0,7% de la population française et pourtant, c'est toujours 90% de la publicité.
Ouais, c'est vrai. Mais même pour les vêtements de yoga, enfin, moi je trouve que les choses commencent à évoluer. Il faut essayer de voir le côté positif. C'est vrai que la majorité le met un peu de côté, mais sur la mode de manière générale, malheureusement. Et c'est encore catégorisé comme du plus size ou du XL et autres machins, ce qui est un peu dommage. Mais il y a quand même des marques qui évoluent justement pour pouvoir proposer des gammes plus larges en termes de taille. C'est juste que c'est vrai qu'elles sont pas trop mises en avant. Et ce qu'on peut constater aussi parfois, et là qui est dommage pour le coup, et je le dénonce. C'est que j'ai découvert l'autre jour, j'ai fait un article de blog récemment justement pour pouvoir orienter les gens vers des marques de leggings de yoga qui soient écolo, soit justement inclusive en termes de taille ou les deux, et faire un petit retour sur ce que moi je consomme. Et en fait, je suis tombée sur un site qui proposait carrément une catégorie grande taille. Donc je me suis dit, mais génial, ça allait, c'était des tailles numérotées, ça allait jusqu'à la taille 6. Et en fait, j'étais hyper déçue de constater que les mannequins utilisés sur les photos étaient les mêmes que sur la section classique taille normale. Et je me suis dit, mais là, il y a un problème en fait. Parce que moi, cette section grande taille m'intéresse, j'ai envie de confort et j'ai envie de prendre une taille 4 ou 5, j'en sais rien. Et en fait, je peux pas m'identifier puisqu'on a remis un mannequin taille 36-38 en photo.
Ouais, ils allaient pas au bout de la démarche, quoi.
Exactement, ils vont pas au bout de la démarche. Et en fait, enfin, c'est hyper important, enfin, en termes de morphologie, pour savoir comment le legging va tomber sur nos hanches par rapport au ventre, est-ce qu'il est pris en compte et tout. Et en fait, j'ai fui le site. Là, je me suis dit, mais c'est contre-productif. C'était cool, les gars, d'avoir commencé à proposer des grandes tailles, mais montrez-les, en fait. Assumez jusqu'au bout le fait que vous voulez proposer quelque chose d'un peu novateur et d'un peu plus inclusif, en fait. Parce que c'est un shop en ligne. Il y a peut-être un point de vente dans Paris. Comment on fait, en fait?
Oui, quand tu peux pas essayer, c'est encore plus compliqué. Donc effectivement, tu as besoin d'images de mannequins où tu peux te rendre compte à peu près de ce que ça va donner sur ta morphologie.
C'est ça. En tout cas, ça t'aide. Il y a un guide des tailles, je sais pas. Enfin, ouais, on va au bout du truc, en fait. Et aujourd'hui, je trouve que la mode, de manière générale, va dans cette direction où on personnalise un peu plus les choses, on nous donne des indicateurs différents pour prendre nos mensurations, pour vraiment s'assurer que ça tombe bien, que ça soit bien coupé et tout. Et sur du matériel sportif, donc là, ça marche pour un legging, mais une brassière, parlons-en. Enfin, qu'on ait une toute petite poitrine et qu'on trouve pas quelque chose qui puisse nous mettre à l'aise et haute et au contraire avoir une très grosse poitrine et lutter pour se dire est-ce que mes seins vont rester en place pendant tout le cours? Est-ce que je vais pas me retrouver avec, ouais, clairement les seins qui débordent quand je fais un headstand ou autre? Enfin, c'est des problématiques que j'ai expérimentées et je me dis, je comprends pas comment on peut pas penser à ça. C'est un peu comme le fait d'encourager les personnes en surpoids ou obèses à faire du sport, à leur dire ouais, bougez-vous et tout machin. Mais par contre, quand ils veulent s'y mettre, il n'y a rien en fait qui est prévu à cet effet. C'est une galère pour s'habiller, pour se chausser, et puis on est critiqué parce que c'est mise au sport celle-là. Enfin, je trouve que c'est un autre débat, mais c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Si on veut nous proposer des solutions, mais derrière, on n'en a pas, débrouillez-vous.
Et est-ce que justement, vous auriez, puisqu'on en parle, bah, des marques qui sont justement plus inclusives, qui mettent vraiment des modèles avec des silhouettes différentes sur leur site? Voilà, si vous avez des marques chouchou, est-ce que vous pouvez un petit peu nous les citer quand on n'a pas une taille 38 et qu'on veut se trouver un legging sympa de yoga, ou pas un legging forcément d'ailleurs, c'est peut-être pas l'uniforme non plus obligatoire pour faire du yoga?
Ben, moi, il y a une marque que j'aime bien. Bon, c'est une marque sur Internet, c'est une marque américaine qui s'appelle Fabletics, qui pour le coup, moi, m'a permis de débuter justement avec ouais du matériel de yoga de bonne qualité, résistant et puis surtout très adapté aux différentes morphologies. Je sais plus jusqu'à quelle taille ça va, mais je sais que c'est très inclusif et pour le coup, sur le site, il y a toutes les morphologies qui sont représentées. Donc, je trouve que c'est un bon point de départ. Après, on n'est pas sur une marque qui est particulièrement engagée d'un point de vue écologique ou autre. Donc, si on est plutôt orienté vers du Made in France ou sur des matières éco-responsables, il y a Yoga Searcher, qui est pas mal, mais faudrait vérifier sur les modèles. Je sais plus trop comment ils proposent, enfin quelles sont les photos qui sont proposées. Moi, j'utilise aussi du Kind Yoga, KIND. Alors, ça va pas non plus jusqu'à des tailles très extrêmes, mais ils ont une gamme qui est assez extensible, qui s'adapte bien aux formes, que ce soit au niveau des hanches, au niveau de la taille et autres. Et sinon, je sais que récemment, il y a Baya qui a proposé des nouveaux modèles qui se déclinent justement jusqu'au 46 de mémoire et qui proposent justement des photos avec. Enfin, le shooting a été réalisé avec des mannequins un petit peu de toutes les tailles. Et j'en ai une petite dernière qui travaille petit à petit dans cette direction, c'est Gaia Skin, qui est fabriquée au Portugal, qui travaille sur des matériaux recyclés à base de filets de pêche et qui commence justement à orienter de plus en plus vers du grande taille. Ça va jusqu'au XL pour le moment. Mais pour avoir échangé avec la marque, à l'époque de la création de la marque, il n'y avait pas trop d'intérêt en fait. Les personnes interrogées sur les tailles et autres, malheureusement, se situait essentiellement dans du 38-40. Donc la marque, elle s'est dit, bon, bah, je débute avec une plus petite gamme de taille et éventuellement, par la suite, je vais pouvoir augmenter au fur et à mesure s'il y a de la demande, en fait. Parce que c'est un peu ce à quoi aussi les petites marques qui débutent sont confrontées. C'est
Oui, c'est difficile d'avoir plein de tailles en stock.
ça, voilà. Et voilà, j'ai une dernière qui est en cours de création, qui s'appelle Égalité Paris. Et qui propose cette fois-ci des vêtements sportifs pour hommes et femmes, et qui vont justement être déclinés dans toutes les tailles. Et il y a justement un tableau de mensurations différentes à prendre pour vraiment se retrouver avec une pièce presque sur mesure. Voilà, je m'arrête là pour la liste des marques qui pensent un peu plus, enfin qui élargissent en tout cas leur gamme de tailles pour tout le monde.
Super, bah ouais, merci pour ces pistes, on ira regarder. Est-ce que Alice, toi, t'en avais d'autres à rajouter?
Moi, c'est plus justement que je me suis rendu compte de l'importance de. Du citoyen ou du consommateur, si on veut dire un peu des mots à la mode. Donc, je fais pas du tout une grande taille, je fais du 36, 38 en fonction des périodes de ma vie. Donc, je suis clairement pas touchée par ça. Mais en attendant, en tant que militante, je regarde énormément. Et il y a pas longtemps, sur Instagram, j'avais parlé de grossophobie en règle générale et j'avais dit si vous avez des choses à partager, allez-y. Et quelqu'un avait partagé une marque de vêtements de sport en disant qu'elle était inclusive. Et parce qu'en fait, elle était inclusive au niveau des genres, mais pas au niveau des tailles. Et donc, j'ai beaucoup de personnes, notamment qui font partie de mes cours de yoga, qui m'avaient dit, ah, mais c'est une micro-agression, y a pas, ça va pas au-delà du XXL, moi, je peux pas rentrer dans ces vêtements. On dit que c'est inclusif, mais ça ne dépasse pas le 46, etc. Et donc, j'ai envoyé un message à la marque de sport concernée et je lui ai dit ce que m'avaient dit mes élèves. Et donc, le fondateur avait tout de suite répondu en me disant, mais jusqu'à quelle taille on pourrait aller? Et donc, en fait, il a été très curieux de savoir quels étaient les retours clients, entre guillemets, même si les personnes n'étaient pas directement ses clients et clientes. Et donc, aujourd'hui, dans son plan marketing pour la nouvelle collection, veut aller jusqu'au 58. C'est que les marques le prennent pas en compte dans leur plan marketing, mais quand on veut qu'il y ait de l'engagement, elles arrivent plus ou moins en fonction des marques à rentrer dans l'inclusivité, quoi.
D'accord, oui, ça c'est des réactions qui sont super positives du coup. Ça veut dire que si on pose la question, ils sont capables de s'adapter et ils prennent en compte les remarques et les retours. Et Alice, tu parlais tout à l'heure de grossophobie. Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose qui existe dans le yoga, tout simplement de la part de certains élèves ou même de certains profs dans les cours? Est-ce que Juliette, toi, quand tu as commencé le yoga, par exemple, tu as pu sentir des regards ou des remarques pas bienveillants dans certains studios à cause de ton poids? C'est vrai que la philosophie du yoga, c'est plutôt dans le non-jugement. Donc, comment ça se passe en fait concrètement? Est-ce qu'on peut avoir des mauvaises expériences dans les cours de yoga?
Alors, je dirais que sur 5 ans de cours pris à Paris, j'ai eu 95% de bonnes expériences, où je me suis jamais sentie jugée, où j'ai toujours trouvé une petite place dans le cours pour être tranquille, et je me suis pas fait, enfin, j'ai pas pris de remarques de la part des profs ou autres. Enfin, chacun m'a laissé faire un peu à mon rythme, sauf une prof, une fois, à qui j'explique que justement, bah, j'ai un problème au genou. Donc, je venais de faire en plus une petite intervention dessus, et donc je lui dis, bah voilà, je peux pas poser mon genou de telle façon, je peux pas le plier de telle façon et autres. Donc, vous inquiétez pas, enfin vous étonnez pas si je fais pas les mouvements à 100%. J'ai suffisamment d'expérience maintenant. C'est juste que je peux pas faire l'intégralité du truc. Elle me dit, ok. Puis à la fin du cours, je sens que ça l'a un petit peu interpellée. Donc elle vient me voir et elle me dit c'est quoi ce problème de genou et tout. Donc je lui explique que c'est un accident, que c'est la deuxième fois, ceci, cela. Et puis pendant que je lui parle, je sens le balayage corporel avec son regard. Elle est en train de me regarder des pieds à la tête. Elle s'arrête et puis elle me dit il y a peut-être un truc à faire niveau alimentation, non? Donc je reste un peu bête. Je lui dis comment ça? Bah, elle me dit, bah oui, je sais pas, peut-être qu'il faut que vous changiez votre façon de vous alimenter, mais rien à voir. Enfin, j'étais pas en train de lui dire que. Enfin, j'étais en train de dire que j'avais un accident au genou. C'est comme si on tombe, on se casse le poignet, la personne dit, mais attends, il faudrait peut-être penser à arrêter le chocolat. Et donc, elle me dit, voilà, qu'est-ce que vous mangez? Ça va, vous. Et puis, elle faisait les questions et les réponses. Je déteste ça. Elle dit, ça va, vous mangez pas trop de pizza, de chips, de boissons sucrées et tout. Et en fait, elle a dit ça devant tout le monde. Et. À ce moment-là, j'étais incapable de répondre ou j'étais effarée de ce qu'elle pouvait me dire. Et je me disais, elle est en train de me demander ce que je mange, elle est en train de mettre mon problème de genou sur le poids, en fait, enfin, de faire un parallèle entre mon problème de genou et mon poids, mon physique. Elle ne me connaît pas, c'est la première fois que je viens dans un cours et elle est en train de s'intéresser à ce que je mange, mais de pointer du doigt. Enfin, c'était très confus dans ma tête, ça l'est encore aujourd'hui parce que je ne comprends pas ce qui a poussé cette prof à se mêler de ça et à m'incriminer devant tout le monde. C'était hyper gênant. Et elle était en train de me dire, faudrait peut-être arrêter les farines, les machins, les trucs et tout. Et je me disais peut-être qu'elle est en train de me proposer une alimentation anti-inflammatoire ou autre. Et en fait, non, elle est en train de pointer du doigt le fait que j'étais grosse et donc que j'étais responsable en fait de ce problème de genou. Je suis sortie du studio dégoûtée à un point où je me suis dit, mais je vais envoyer un mail au directeur, en fait, c'est pas tolérable. Cette prof-là propose des cours yoga de la femme, elle accompagne des femmes post-grossesse et tout. Je me suis dit, mais c'est un enfer. Moi, je peux pas conseiller cette professeure à qui que ce soit parce que son regard était horriblement enfin, il y avait un jugement énorme. C'était une femme qui était très très mince. Je suis sortie mal de ce cours et je me suis dit, plus jamais, en fait, j'accepte qu'on parle comme ça.
Oui, peut-être que le conseil, c'est peut-être justement de dire, c'est vrai que la grande majorité des profs de yoga sont évidemment bienveillants et tout à fait en acceptation par rapport au corps, etc. Mais que si on tombe finalement sur des profs comme ça, qui sont l'exception mais qui existent, l'idée, c'est tout simplement effectivement de ne pas revenir à ce cours et de pas
Exactement.
s'arrêter là non plus, quoi, d'en essayer d'autres parce qu'il n'y a pas que ça, c'est pas ça la réalité du yoga.
Bien sûr que non, il n'y a pas que ça. Et en fait, la colère est passée. Je me suis dit, allez, c'est pas grave. C'est une parmi tant d'autres. Au final, c'est juste une toute petite expérience que j'ai eue. Elle est fâcheuse. Bon, bah, c'est pas grave. Je retournerai pas là-bas. Je ferai pas la pub de ce studio. Et puis, c'est pas grave. Mais en fait, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que, ouais, dans ce monde aussi joli soit-il que le yoga, très bienveillant et autres, ça reste des humains qui se permettent d'émettre des jugements, de dire des choses, de s'occuper de ce qui les regarde pas. Et ça pourrait être le cas dans n'importe quel autre cours de sport, dans n'importe quelle autre rencontre professionnelle. Il y a toujours quelqu'un qui sort de son cadre. Et il faut soit apprendre à remettre à sa place. Moi, je n'ai pas réussi à le faire ce jour-là parce que j'ai tellement été choquée que je me suis mise un peu en mode autodéfense en disant, OK, je me casse et ça s'arrête là. Et puis voilà, on fait avec, mais je pense que ça a dû arriver à d'autres personnes de subir ce genre de remarques ou peut-être juste un regard qui soit un peu déplacé. Et c'est pour ça que moi, j'ai appris justement en tant que prof aujourd'hui, quelles que soient les personnes qui arrivent dans mon cours, si les gens n'ont pas envie de partager des choses avec moi, je ne vais pas aller chercher des réponses en fait. J'ai un discours d'accueil qui rappelle l'importance d'écouter son corps, de faire avec son humeur du jour, avec sa forme physique, est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on a ses règles et autres. S'il y a quelqu'un qui veut me signaler une blessure, qu'il le fasse. Et en fait, parfois, les gens, on se rend compte qu'ils n'osent pas le faire devant tout le monde. Et par contre, quand on circule dans la salle, là, ils vous interpellent et ils disent, bon, bah, voilà, moi, j'ai mal ici, ou moi, j'ai un problème là et autres. Et faut respecter ça, en fait. Mais tant que la personne, elle ne s'est pas dévoilée ou autre, qu'elle soit très grosse, très mince, ou je ne sais pas, ça m'est pas arrivé, mais qu'elle ait une prothèse ou autre, bah, faut laisser la personne tranquille. Elle a fait déjà le chemin de venir jusqu'ici pour trouver un espace bienveillant et accueillant. Donc, on va pas pointer du doigt sa différence, en fait, devant les autres. C'est pour ça que quand je m'adresse aux élèves en disant, n'hésitez pas à écarter un peu plus les pieds pour soulager au niveau du ventre et des cuisses, bah déjà, je me parle à moi-même parce que je suis gênée par mon ventre et mes cuisses. Et je me dis, ceux qui se sentent concernés vont prendre cette info. Et puis, ceux qui se sentent pas concernés vont se dire, ouais, c'est pas grave, en fait. Enfin, moi, je suis bien comme je suis installée et c'est tout. En tout cas, je veux dire que c'est à la portée de tous de pouvoir adopter un discours inclusif quand on prête attention. Et à côté de ça, c'est aussi de notre responsabilité, comme dans tout, de mettre une barrière et de dire « je refuse ce que tu es en train de me dire comme méchanceté et je m'éloigne en fait et je ne reviens pas ». Et c'est tout.
Et est-ce que vous pensez que ça peut aussi être une histoire de formation, vous qui avez toutes les deux fait des teachers training, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous enseigne comment s'adapter à tous les corps, toutes les morphologies, toutes les limites physiques qu'elles puissent être est-ce que vous trouvez que c'est un point sur lequel on insiste suffisamment dans les formations, peut-être pas assez, Alice, je ne sais pas ce que tu en penses.
Moi, c'était pas forcément une question de volonté de mes formateurs et formatrices de ne pas en parler. Mais en fait, même mes formateurs et mes formatrices n'étaient pas formés à ce sujet. Et même quand je leur posais des questions, parce que c'est venu très rapidement dans ma réflexion, ils et elles ne savaient pas. Et donc, peut-être, c'était plus, on peut peut-être faire, par rapport au ventre, faire des ajustements comme dans les cours de pré- et post-natal, alors que c'est pas du tout le même sujet. Mais c'était complètement bienveillant et réfléchi, mais c'est juste que oui, enfin, les personnes ne savaient pas vraiment comment faire, et donc j'ai dû complètement me former toute seule. Et c'est là où en France, j'ai regardé, donc en France, ce qui se faisait par rapport au yoga inclusif. Et il n'y avait rien du tout. Et donc j'ai été plus du côté des États-Unis, où là j'ai pu voir des livres, des vidéos. Et ça paraissait beaucoup plus évident et naturel de l'autre côté de l'Atlantique. Mais non, enfin c'est, enfin de mon côté, il y a vraiment eu presque rien, quoi.
Pareil pour moi. Je rejoins complètement Alice. Moi, dans ma formation, il n'y avait pas forcément une volonté d'en parler. Enfin, ou en tout cas de nous sensibiliser à ça. Soit parce qu'il n'y a pas le temps, soit parce qu'en fait, c'est pas encore vraiment naturel de se dire « tiens, on va penser un petit peu à tout le monde ». Et puis, je pense qu'aussi, il y a un truc, alors c'est ma vision des choses, mais je pense que si Alice et moi, par exemple, un jour, on devenait prof de prof, on aurait forcément plus le réflexe d'y penser, parce qu'on est concerné, on est passé par là, ou on l'a constaté. Alors que pour des professeurs qui sont très à l'aise physiquement, qui n'ont pas de contraintes, qui ont l'habitude d'enseigner de façon assez universelle et autre, c'est moins naturel en fait. Donc moi, je blâme pas mes profs de pas me l'avoir enseigné, mais c'est vrai que ça m'a manqué. Donc j'ai fait comme Alice, j'ai fait des recherches plus sur Internet, je suis allée voir aux États-Unis où il y a pléthore de choses sur le sujet, il y a des vidéos, il y a des ajustements, il y a plein de choses. Et en fait, aujourd'hui, j'essaye justement de pouvoir proposer ça, d'en parler avec d'autres profs qui lancent leur propre formation et de leur dire... penser à inclure une petite partie où on pense à tout le monde en fait. Parce que faire tenir quelqu'un en arbre, donc en équilibre sur un pied, quand on est très très lourd, perso c'est difficile, enfin, pour la cheville, pour la jambe et autres, c'est pas impossible, mais ça prend du temps, donc proposer des options demander à vos élèves de s'entraîner justement avec un bolster ou avec un poids supplémentaire pour se rendre compte en fait un petit peu de la difficulté à laquelle on peut être confronté quand on est plus lourd.
Oui, ça c'est une bonne idée effectivement de se mettre un peu à la place de certains élèves qui peuvent avoir certaines limites ou difficultés que toi en tant que prof très athlétique tu n'as pas pour se rendre compte et proposer des conseils plus adaptés. C'est vrai que justement j'aimerais bien qu'on rentre dans des considérations un petit peu concrètes pour répondre aux questions que les gens se posent. Donc à la question est-ce qu'on peut être gros voire très gros et pratiquer le yoga? Évidemment, la réponse est oui, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi, en fait. Pourquoi c'est pas du tout un frein si on a envie d'essayer le yoga?
Moi, je dirais qu'en fait, c'est accessible. Pourquoi? Parce que le yoga, encore une fois, est vu comme un enchaînement de postures debout, très, très athlétique, très chorégraphié, où on reste longtemps dans les postures et autres, où c'est très dur. Alors qu'en fait, le yoga englobe beaucoup de choses. Et moi, j'encourage les gens qui sont un petit peu... soit très gros ou juste avec une pathologie ou une contrainte physique, de dire commencez par quelque chose de plus accessible, commencez par des pranayamas, donc des techniques de respiration. Il y a le yoga sur chaise aussi, qui est une bonne alternative, qui permet de pouvoir bouger sans avoir un poids supplémentaire sur les pieds ou sur les genoux. Et puis, on peut mettre en place toute une série de petits exercices qui se font debout ou assis et qui mobilisent soit le haut du corps, soit le bas du corps, mais qui vont un petit peu dissocier au début pour pouvoir apprendre déjà à se reconnecter avec ses sensations. Et je pense qu'il y a un gros travail sur la respiration à faire. Et ça, c'est la base pour tout le monde, qu'on soit en super forme ou que ce soit plus difficile, d'avoir ce travail autour de la respiration qui est à la base c'est un des piliers du yoga, en fait. On voit aujourd'hui le yoga comme quelque chose qui se fait sur un tapis. Donc, c'est la partie asana, Donc, c'est les postures qui s'enchaînent et autres. Mais en vrai, il y a plein d'autres choses. Il y a de la méditation, il y a de la visualisation, il y a de la respiration. Et moi, c'est un peu mon combat aujourd'hui. C'est de montrer que c'est aussi une porte d'entrée dans le yoga. Avant de vouloir faire des choses incroyables avec son corps, de se contorsionner, de monter sur la tête ou autre, bah, d'accepter déjà de se reconnecter à son souffle et de bouger de façon consciente, rien que de marcher en respirant profondément, de prendre le temps d'étirer ses doigts, ses orteils, les bras au-dessus de la tête. Enfin, qui fait ça au quotidien, juste de s'étirer à fond, bah ça c'est hyper accessible même si on est très gros ou encore une fois qu'on a un autre type de contrainte physique. Et je sais pas ce que t'en penses Alice, mais rien que ça déjà c'est un premier point de départ et qui permet aux gens de se dire « Oh, mon corps il est vivant, enfin je peux l'étirer, je peux respirer à plein poumon, je peux bouger ». Et en fait petit à petit c'est un cercle vertueux, c'est que plus on le fait, plus on a envie d'en faire et plus le corps est enclin à se laisser faire justement et à tester de nouvelles choses, on peut explorer, mais ça se fait progressivement. En tout cas, c'est ma vision des choses et c'est ce qui fait que pour moi, il n'y a pas de contre-indication à pratiquer du yoga, c'est juste qu'il faut trouver son type de yoga et il faut peut-être inverser l'ordre des choses par quoi commencer.
Je suis complètement d'accord avec toi et peut-être aussi... Quand on commence, mais n'importe quelle activité physique ou même mentale, c'est pourquoi on le fait. Pourquoi je veux me mettre à courir? Pourquoi je veux me mettre à faire du yoga? Pourquoi je veux me mettre à faire de la pâtisserie? Enfin, c'est juste se poser la question de pourquoi et mettre une intention sur ce qu'on fait. Ce qui est aussi un des principes de yoga, c'est faire les choses en pleine conscience et avec une intention, donc une question d'offrande. Donc offrande, on peut le prendre d'un point de vue spirituel à quelque chose de plus grand que soi, ou même offrande à soi-même en niveau de temps. Prendre 10 minutes, 30 minutes ou une heure pour soi dans la journée, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Et donc effectivement, il n'y a pas de barrière à l'entrée au yoga, tout simplement parce que je peux... Enfin, c'est donc pourquoi je veux faire du yoga? Pour me faire un cadeau à moi-même. Et de prendre le temps pour soi. Et donc, est-ce que me faire un cadeau pour moi, c'est savoir faire le grand écart, ou c'est juste me déconnecter du passé, du futur, pour revenir sur le présent? Et après, si on veut être très souple, y a différentes façons de devenir souple. C'est juste, oui, se poser la question du pourquoi je veux faire du yoga. Et quand on se pose la question du pourquoi, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de savoir faire le grand écart, quoi.
Et puis, ceci dit, même si on veut être plutôt dans les asanas, dans une pratique assez physique, c'est vrai aussi que le poids ne joue pas forcément sur la force, l'équilibre, la souplesse. J'imagine qu'il y a des personnes qui sont grosses et très souples ou très musclées. Qu'est-ce que vous constatez, vous, là-dessus ?
Moi, je constate que la souplesse n'est pas synonyme de minceur. Très clairement, il y a des gens qui sont très minces mais très raides. Alors je pense à tous ceux par exemple qui font beaucoup de courses à pied. Enfin, ma mère par exemple, c'est une sportive aguerrie, elle a 63 ans, elle a une patate d'enfer, elle fait du sport 5 fois par semaine, course à pied, tout ce qu'on veut. Mais par contre, elle est raide comme un bâton, donc je l'ai mise au yin yoga avec moi. Aujourd'hui, elle apprécie les bienfaits et autres, mais elle déplore justement son manque de souplesse. Alors que quand on la voit, on pourrait se dire « Ok, elle est ultra musclée, sportive, ça va suivre. » Mais pas du tout. Et à côté de ça, on peut avoir des personnes qui sont justement beaucoup plus rondes. J'avais l'exemple d'une fille avec qui je faisais du théâtre, qui était assez ronde et qui était d'une souplesse incroyable, qui pouvait faire un split comme ça, sorti de nulle part sur scène sans s'être échauffée parce qu'elle était hyper laxe et puis parce qu'elle avait cette mobilité dans le corps qui n'était pas du tout gênée par son surpoids, quoi. Donc je pense que ouais, ça dépend des personnes, c'est vraiment pas un critère de morphologie. Et c'est pour ça que bien souvent on a des surprises. Donc il y a la souplesse, mais il y a même aussi la force. On pense souvent que les personnes très grosses sont juste grosses, voilà, molles. Mais pour pouvoir porter le poids qu'on a, il faut une masse musculaire quand même énorme pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir marcher, pour pouvoir accomplir des choses au quotidien. Il y a des muscles en fait qui sont cachés là-dessous. Et malheureusement, je trouve qu'on le met pas suffisamment en avant. Alors que il y a déjà une super base. Et donc, en fait, bien souvent, c'est juste que la machine, elle a été un petit peu au repos. On est face à la sédentarité de manière générale, qu'on soit gros ou pas gros. Et en fait, souvent, c'est juste de remettre un peu les mécanismes en route et de se rendre compte que « Ah, mais il y a des muscles, en fait, là-dessous. Je sens mon corps, en fait. » Et c'est tout ça, la magie du yoga et du sport de manière générale, enfin, de l'activité physique de manière générale. C'est de se découvrir des muscles cachés ou en tout cas des sensations pareilles qu'on a un peu mises de côté. Et donc, on peut se découvrir très souple et on peut se découvrir également une force sous-estimée au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau du dos. On dit toujours « Ah non, j'ai peur de me faire mal au dos », mais en vrai, le dos n'est pas plus fragile qu'une autre zone, c'est juste qu'on n'en prend pas suffisamment soin. Donc forcément, oui, il est un peu plus lésé que les jambes qui, elles, fonctionnent au quotidien. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses sur les différences physiques qu'on peut avoir.
Et est-ce que vous avez quand même, alors même si évidemment ce sera toujours du cas par cas et chacun en fonction de son ressenti par rapport à son propre corps, mais est-ce que vous avez des petits trucs, des petits conseils à donner qui sont valables quand même pour beaucoup de gens pour se sentir plus à l'aise dans certaines postures? Est-ce que toi, Alice, par exemple, dans tes cours de yoga, tu donnes des petits trucs, des petites adaptations pour se sentir plus confortable dans une posture quand on a un gros ventre ou des choses comme ça?
Bah, il faut comprendre ce qui pourrait gêner. Donc pour moi, c'est complètement se projeter et imaginer, genre, bon, bah là, je vais me rajouter, enfin, faire comme si je n'arrivais pas à faire la posture. Enfin, et ça marche tout aussi bien pour la souplesse, c'est imaginer des ajustements. À mes premiers cours de yoga, j'étais très timide de donner des ajustements. Et finalement, aujourd'hui, où je me suis rendu compte que c'est pas grave en fait de dire si vous en flexion avant typiquement, donc quand la tête se rapproche des jambes en se penchant vers l'avant, il y a beaucoup de personnes dont leur respiration est coupée. Et donc maintenant, bah, j'ai plus peur de dire écartez plus les jambes, déplacez votre ventre, déplacez vos seins pour pouvoir être plus à l'aise en fait. Donc là, je le dis comme ça, mais j'essaie de le mettre dans évidemment un cadre safe pour pas que les personnes se sentent agressées. Et donc c'est juste en utilisant les mots et en les désacralisant en fait. Si je dis déplacer votre gras, c'est une information factuelle. Et c'est juste si j'y mets une attention malveillante comme ah, ce n'est pas bien du tout donc d'avoir du gras parce que ça ne permet pas d'aller dans l'ajustement traditionnel. Ou alors si je dis on s'en fiche de l'ajustement traditionnel, on veut juste être à l'aise dans une posture et bouger son corps. Donc comme c'est qu'une question d'intention, et donc bien dire des phrases neutres, et donc pour ne pas qu'elles soient mal interprétées, c'est le plus important.
Je suis assez d'accord avec ça. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, justement. Mais oui, on utilise des mots. Il faut pas chercher à lire entre les lignes. C'est comme a dit Alice, voilà, déplacer votre gras, déplacer votre ventre. Moi, c'est pareil. Des fois, je me dis, je suis en train de dire attention à pas vous écraser la poitrine. Et je me dis, ah, mais si dans mon cours, il y a des femmes qui n'ont pas du tout de poitrine, elles vont dire, ah, ben, moi, j'en ai pas. C'est difficile, en fait, de pouvoir forcément contenter tout le monde. Mais comme dit Alice, quand il n'y a pas de malveillance derrière, que c'est juste des choses qui sont factuelles, ce sont des explications qui sont claires et qui sont là pour aider. Je veux dire, en dehors du tapis de yoga, on fait déjà face à ce genre de difficultés quand on est gêné par son ventre, quand on est gêné par ses cuisses, ou qu'on est essoufflé quand on est dans les escaliers. Enfin, on n'a pas besoin d'attendre d'arriver sur un tapis de yoga pour s'en rendre compte. Donc, on est déjà au quotidien en train de s'adapter en permanence. Et donc là, d'avoir quelqu'un qui nous donne les astuces pour y arriver plus vite et plus facilement, bah, c'est que du bonheur en fait. Et c'est là où on a un vrai rôle à jouer. C'est que on est là pour faciliter les choses et pour permettre aux gens, bah, de piocher toutes les informations dont ils ont besoin pour se sentir pleinement à leur place sur leur tapis et de pouvoir progresser et d'avancer avec leur corps en fait, parce que c'est le yoga qui s'adapte au corps et c'est pas l'inverse. Donc comme a dit Alice, voilà, au début je me sentais pas forcément légitime. Il y a ça aussi, il y a ce sentiment de légitimité qui est pas toujours facile. C'est voilà, d'oser dire aux gens écartez vos jambes pour avoir plus de place, pour pas presser sur les genoux, pour pouvoir être bien au niveau du ventre. Pareil, d'utiliser du matériel, des coussins, des choses, des couvertures sous les genoux aussi, quand on est par exemple dans une fente basse, qu'on est à genoux, ça peut être très douloureux d'être sur le genou, même si c'est 30 secondes, hop, petit coussin, ça prend plus de temps, c'est pas grave, il y a un confort derrière, la personne elle est accompagnée et elle n'est pas en train de se faire mal, c'est hyper important. Il n'y a rien de plus antiproductif que de contre-productif, pardon, de faire un cours où on a mal. Alors qu'on est là pour se faire du bien, justement. L'intention des gens, c'est de venir se faire du bien, et nous, c'est de les aider à se faire du bien, à mettre en pause l'agitation du quotidien et de pouvoir se reconnecter à soi-même.
Et justement, bah, quand tu parles de se reconnecter à soi-même, j'aimerais évidemment qu'on parle du rôle positif que peut avoir le yoga, notamment pour aimer davantage son corps, si ce n'est pas déjà le cas. Bah, est-ce que ce n'est pas finalement le meilleur outil pour tout le monde, hein, pour accepter son corps tel qu'il est, pour travailler sur l'image qu'on a de soi? Comment ça va jouer tout ça quand on commence à pratiquer le yoga?
Le yoga a eu un rôle vraiment primordial pour moi. Donc là, c'est Alice en tant qu'élève. Quand je détestais mon corps, quand je sentais mon ventre approcher de mes cuisses, au lieu de me dire mon Dieu, mon gras de ventre va toucher mon gras de cuisse, je me suis dit ah bah c'est bien, je m'assouplis. Et enfin, c'est bien, je m'assouplis pas comme si la souplesse était un point final à arriver, mais toutes ces micro-progressions, autant physiques que psychologiques, parce qu'on peut aussi se dire ah bah en Shavasana, qui pour moi est la posture la plus compliquée, j'ai réussi à déconnecter de mon flux mental incessant qui me disait ah, je dois acheter du pain, je dois changer la litière de mon chat. Enfin, et donc là, justement, c'est remarquer ces micro-progressions qui nous permettent au fur et à mesure de remercier son corps, de remercier son esprit, de comprendre qu'on s'en fiche, que d'avoir du gras qui touche, enfin le gras du ventre qui touche le gras des cuisses, le plus important, c'est juste de... Ce que j'aime beaucoup en flexion avant, c'est la petite bulle qu'on crée autour de soi, parce qu'on ne voit plus vraiment le monde extérieur et on n'est que sur soi, et donc c'est très apaisant. Et donc justement, arrêter ces petites fluctuations mentales de « j'aime pas mon corps, il se passe ci, il se passe ça », à juste « ah, je me sens bien dans cette petite bulle que je m'auto-crée ». Comme ces micro-câlins qu'on peut se faire tout le temps en yoga, en fait, c'est cette reconnexion au corps où on arrête de le martyriser, quoi.
Ouais, je rejoins Alice par rapport à ça, c'est exactement ça. Bon, alors moi, la flexion avant, j'aime pas. J'ai beau écarter mes jambes et plier mes genoux et autres. Enfin, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, même si ça fait un bien fou au dos. Et à côté de ça, Shavasana, moi, j'aime beaucoup. Et c'est là où, en fait, j'ai accroché avec le yoga, c'est de me rendre compte que allonger sur le dos, sans rien faire, en silence, me faisait du bien. Me permettait de me déconnecter. Alors, même si, pareil, j'avais une liste de litières, de courses, de machins, de trucs et tout, juste de me rendre compte, oh, ça fait du bien. Et très souvent, je me suis endormie en plus. Donc, c'était révélateur de j'en ai besoin, en fait. Puisque je suis toujours dans l'agitation en permanence, je suis assez bavarde, assez speed et tout. Et le yoga m'avait permis justement de pouvoir trouver ce moment de calme où je suis concentrée sur ce que la personne me dit. Je comprends pas tout ce qu'elle me dit, elle me donne beaucoup trop d'instructions. Au début, elle me dit de respirer, de rentrer mon ventre, de faire ci, de faire ça. Et je dis toujours aux élèves, prenez ce que vous pouvez, et puis le cours d'après, vous prendrez d'autres infos. Vous n'avez pas besoin de tout prendre d'un coup. En fait, on se crée une bulle, et puis c'est encore voilà, ce truc de qu'est-ce que mon corps me permet de faire, plutôt que de réfléchir à ce que je peux pas faire. Moi, quand j'ai eu cette blessure au genou, c'était la deuxième fois, le verdict a été sans appel, je peux plus courir, je peux plus sauter, je peux plus avoir d'impact, parce qu'il me manque un morceau de rotule, enfin pas de rotule, mais de cartilage, et j'étais très frustrée. Et en fait, le yoga m'a permis de me montrer que justement, bah, je pouvais faire plein d'autres choses. Et même si au début, j'avais du mal à utiliser mon genou, bah, je faisais toutes les autres postures, ou en tout cas, j'utilisais des astuces. Alors, on apprend aussi à se créer ses propres astuces, hein, quand justement le prof n'est pas toujours de bons conseils, pas parce qu'il n'a pas envie, mais parce qu'il est un petit peu pris au dépourvu. On apprend nous-mêmes à, encore une fois, on s'adapte en fait. On trouve le moyen de s'adapter au quotidien et à voir ce qui fait du bien, ce qui ne fait pas du bien. On se crée donc une petite bulle. Et surtout, là où le yoga a un pouvoir magique naturel, je trouve, c'est que plus on prend soin de son corps et plus ça suit après moralement et mentalement. Et je l'ai constaté sur moi et je l'ai constaté aussi sur des élèves qui ont eu la gentillesse de me faire des retours après les cours de façon spontanée. Et je me disais, ah ouais, bah tiens, c'est pas la première fois qu'un élève vient me dire ça, vient me dire, oh, c'est ce dont j'avais besoin, j'ai mis mon cerveau en pause pendant une heure, j'ai arrêté de penser à mes soucis, oh là là, je me suis connectée à ma respiration et tout. Et c'est ça le plus beau cadeau du yoga, c'est qu'il nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément soupçonnées ou imaginées et de se rendre compte que bah ouais, on a réussi pendant une heure à pas penser à un truc ou à machin, qu'on s'est étiré et que waouh, en fait, j'ai pas besoin d'aller chez l'ostéo cette semaine, j'ai juste besoin de m'étirer un petit peu plus parce que bah c'est juste que le corps a besoin d'être en mouvement. Et puis semaine après semaine, voilà, il y a des petits progrès qui se mettent en place, il y a un peu plus de confort dans telle posture ou toujours pas, mais c'est pas grave, à côté de ça, il y en a une autre sur laquelle ça fonctionne. Et moi, je pêche encore niveau souplesse. Je me dis, oh là là, mais au bout de 5 ans, je devrais être plus souple quand même. J'ai lâché l'affaire avec cette idée de souplesse. Et c'est ça, c'est d'apprendre à lâcher prise, de se concentrer vraiment sur ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je reprends la posture de l'arbre. Les gens veulent à tout prix mettre le pied contre la cuisse parce que c'est la plus belle posture, parce que c'est waouh, j'y arrive et tout. Volontairement, pendant des cours, parfois, c'est une lutte pour moi, donc je mets mon pied contre mon mollet ou contre la cheville. Et je dis, regardez, en fait, ça reste un arbre. C'est un bébé arbre, c'est un arbuste, c'est ce que vous voulez. Mais je suis droite, j'ai les épaules relâchées, je respire et je pourrais presque fermer les yeux tellement je me sens bien dans cette posture. Et apprenez à expérimenter le moins mais le mieux en fait. C'est ça petit à petit que les gens qui viennent sur un tapis de yoga expérimentent, je pense, s'ils sont bien guidés et s'ils se sentent à leur place. Et c'est ce qui fait qu'ils reviennent en fait. Et c'est pour ça que tout le monde devrait faire du yoga. Mon copain me dit toujours, tu vas pas convertir tout le monde. Et je dis, mais si en fait, parce que on a tous un truc à piocher dans le yoga qui nous permettent de prendre un peu plus de recul sur les choses. Je m'en rends compte 5 ans après le début de ma pratique, je suis toujours autant émerveillée de ce que ça apporte. C'est une vraie reconnexion. Et pour certains, ça va être purement physique. Et puis pour d'autres, ça va être quelque chose d'un peu plus mental, un peu plus spirituel et pas physique. Et c'est pas grave, en fait. Chacun peut y trouver quelque chose, en fait. J'en suis vraiment convaincue.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette pratique, peut-être par rapport à d'autres pratiques physiques, c'est que on n'est pas aussi devant un miroir. Et tu m'avais dit l'autre jour, et j'ai trouvé ça très intéressant, que finalement, on apprend à focaliser davantage sur ce qu'on sent que sur ce qu'on voit. Et ça, par rapport à la question de l'image du corps, ça peut être important, j'imagine.
Ah bah oui, moi je suis tombée dans des studios, il y avait des miroirs, ça m'a gênée. J'étais toujours en train d'essayer de regarder si je faisais bien les choses. Et en fait, j'étais en train tellement de vouloir quelque chose de beau sur le miroir que j'ai failli me casser la figure. Parce que je me rappelle d'une fois comme ça où je regardais. Alors déjà, en plus, quand on est à l'inverse, c'est dur de pouvoir bien faire les mouvements. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on est face au miroir, tout est décalé. Et en fait, je voulais faire tellement bien comme les autres que je voyais dans le miroir que bah, j'ai failli me casser la figure. Parce que j'étais plus dans le ressenti, comme tu viens de dire, Laura. Et c'est là où, en fait, c'est bien de se couper de ce qui se passe visuellement pour être plus dans le ressenti intérieur. C'est pour ça que je propose aussi, parfois, je fais une parenthèse, des cours les yeux fermés, très lents, très introspectifs. Et en fait, les gens, à l'unanimité, me disent « Ah, je me suis connectée à ma respiration beaucoup plus que quand j'ai les yeux ouverts. » Bah ouais, on vous a privé d'un sens. Donc, en fait, les autres sont un peu plus en ébullition. Je vois des gens qui touchent le tapis, qui se touchent les hanches, qui se touchent les genoux, qui se touchent les épaules pour voir s'ils sont bien relâchés. Et je trouve ça génial. Parce qu'on n'est plus justement dans le regard, on n'est plus dans la comparaison, on n'est plus en train de regarder si la voisine d'à côté, elle a ouvert un peu plus les jambes que nous. Et ça, c'est super.
Pour terminer, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce mouvement body positive qu'on voit pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux, qui encourage à aimer tous les corps tels qu'ils sont, à arrêter de se juger, de juger les autres, de se comparer. Est-ce que vous sentez cette dynamique aussi en train d'arriver dans le yoga, ou est-ce que ça reste quelque chose qui est encore très, très américain peut-être ? Ils sont un peu en avance aussi là-dessus par rapport à nous.
Moi, personnellement, je le vois un peu, le body positive dans le yoga. Ça arrive doucement. Mais je trouve que c'est tellement intellectuel et pas mis en place, quoi, que c'est très très lent, quoi. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis assez impatiente et que je dois travailler sur mon impatience. Mais oui, je trouve que le body positive est là un petit peu, mais qu'il est un peu trop lent, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'on voit pas encore assez d'images de corps différents qui font du yoga, parce que c'est ça l'idée, c'est que plus on verra sur Instagram des photos de femmes ou d'hommes qui font du yoga et qui ont des morphologies très variées, plus ça deviendra habituel, et voilà, et on sortira de cette norme. Je sais qu'il y a des hashtags aussi par rapport à ça, par exemple le hashtag Everybody Yoga, avec une ambassadrice américaine, une prof de yoga qui s'appelle Jessamine Stanley, qui fait beaucoup de choses. Bon, voilà, c'est vrai que des modèles comme ça, on en manque un petit peu en France, non ?
Bien sûr, on en manque en France. Après, peut-être que c'est nous qui les cherchons pas ou qui ne sont pas encore assez médiatisés. Il y a aussi ça, en fait, parfois aussi. C'est comment on accède à l'information. Alors, Instagram est une mine précieuse, justement, pour pouvoir trouver des nouveaux profils à qui on peut s'identifier et autres. Mais je pense que le body positive, c'est un peu la tendance. Et aujourd'hui, c'est presque un peu trop utilisé, pas à mauvais escient, mais un peu dans tous les sens. Moi, je ne sais plus trop quoi en penser, en fait. J'utilise ce hashtag régulièrement, justement, quand je propose du contenu yoga sur mon profil, parce que bah, je veux montrer, en fait, que je suis prof malgré mes rondeurs et autres. Alors qu'à une époque, ça m'a posé un cas de conscience. Hein. Je me suis quand même demandé si j'étais légitime à être prof et si des gens auraient envie de venir à mes cours. Ça a été vraiment une question que je me suis posée à me dire, mais est-ce que les gens vont avoir envie de prendre des cours avec une petite nana potelée, pas très souple ? Et en fait, bah oui, oui, les gens sont venus en fait, et puis viennent encore, et puis j'ai pris beaucoup de plaisir, mais je me suis vraiment posé la question en me disant, mais personne ne le fait. Et plutôt que de me dire, bah personne ne le fait encore, vas-y, fais-le. J'étais plus en train de me dire, si personne ne le fait, c'est que les gens n'ont pas envie de trouver ça.
Ben c'est là où, d'où l'importance d'avoir des modèles justement pour encourager.
Exactement. Et c'est là où je me suis dit, ben en fait, si, allez-y, go. Et j'ai entendu récemment une nana dire, ah bah ben moi, j'ai été inspirée par le fait que ben, de voir une prof comme Juliette qui soit ronde, de me dire, ben moi aussi, en fait, je peux devenir prof. Et j'étais trop fière d'entendre ça, de me dire, mais trop cool, si ça peut faire germer des petites graines comme ça chez des personnes qui se sont interdites des choses par leur physique, pour leur physique, mais c'est trop bien, quoi. Et donc ça s'applique au yoga, et je pense que ça s'applique à plein plein d'autres choses de manière générale, plein d'autres métiers qu'on se serait interdits par rapport à notre physique. Donc ouais, pour revenir en tout cas sur la question du body positive, ça émerge lentement, tranquillement, mais on l'a dit tout à l'heure avec les marques de yoga, ça se veut inclusif, et à côté de ça, ça n'assume pas en mettant pas de photos sur le site, alors qu'aujourd'hui c'est assez facile de pouvoir trouver quelqu'un sur Instagram ou autre qui va faire quelques photos dans un legging pour pouvoir mettre en avant une nouvelle gamme. Donc, des fois, je me demande, en fait, est-ce que c'est hypocrite ? Est-ce que c'est on veut se montrer inclusif, mais pas trop quand même ? Ou est-ce que c'est parce que c'est un manque de temps ? Enfin, moi, je veux pas blâmer et je veux pas montrer le côté négatif, mais je veux dire que, comme Alice, je trouve que c'est un peu trop lent. Il y a besoin que ça bouge un peu plus. Et en même temps, bah, on peut pas reprocher des choses si nous-mêmes on les fait pas. Et puis bah, s'il y a pas de prof potelé, bah, il y en a pas, quoi, en fait. S'il y a pas de prof rond ou gros ou obèse, on va pas non plus les inventer, en fait. C'est juste que petit à petit, il faut qu'une transition se fasse et que le paysage du yoga français évolue naturellement, ou en tout cas qu'on se documente nous-mêmes en allant chercher ailleurs. Si on va chercher en Inde, où le yoga pour certaines personnes fait partie du quotidien, et c'est même pas je vais dans un studio, c'est je déroule mon tapis chez moi et je fais mes salutations au soleil et autres, là on verra que le physique n'est plus une contrainte et que tous les physiques sont concernés par le yoga.
Et est-ce que vous avez quand même, je sais pas, des sites internet, des comptes Instagram ou même des studios à nous recommander justement pour à suivre un petit peu, pour avoir d'autres images du yoga plus inclusives ? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qu'on peut citer ?
Bah, moi perso, à part le studio de yoga proche de chez moi qui s'appelle Body Positive, j'ai peu d'exemples, en fait, malheureusement.
Ouais, ça c'est intéressant d'en parler, parce qu'effectivement, en plus, c'est Ilan qui tient ce studio, Body Positive Studio, qui nous a mis en contact avec Juliette. Et c'est vrai qu'elle est très attentive à toutes ces questions-là. Elle tient vraiment à proposer un yoga et un lieu accueillant pour tous, quel que soit le poids, le sexe, l'âge, la forme physique, etc. Donc vous pouvez aussi la suivre sur son compte Instagram, @body_positive_studio.
Mais à part elle, moi, mes références sur Instagram, elles sont pas françaises, en fait. Il y a Jessamine dont on a parlé, je suis une autre américaine, mais j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas en tête, quoi. J'en ai pas en tête sur la France.
Bah, pareil, c'est les comptes Yoga Body Positive, c'est tout sous anglo-saxon. Donc, My Name is Jessamine. J'avais noté aussi Big Girl Yoga, qui est assez rigolo. Mais en France, les comptes Body Positive, ils parlent exclusivement juste de grossophobie. Enfin, dans le sens où vraiment des représentations de corps gros. Donc, justement, il y a corps cool, stop grossophobie ou l'obèse invisible. Mais là, ça parle plus de grossophobie et de représentation des corps gros que vraiment le yoga X inclusivité, quoi.
C'est vrai que même en termes de livres, il n'y a pas grand-chose, puisque Jessamine Stanley, elle a écrit un livre qui s'appelle Everybody Yoga, mais qui n'est pas traduit en français pour le moment. Mais moi, je vous conseille quand même, alors même si ça ne parle pas de yoga particulièrement, elle parle un petit peu de sa pratique du yin yoga, mais ce n'est pas le cœur du livre. Mais c'est Gaëlle Prudencio, qui est une influenceuse body positive qui compte beaucoup en France. Et il y a son premier livre qui va paraître à la fin du mois de janvier aux éditions Le Duc S. Ça s'appelle « Fière d'être moi-même ». Et donc, bah, ça permet quand même déjà de lire le témoignage et les conseils de quelqu'un qui s'est réconcilié avec son corps et son image. Et c'est un bon début, même si on attendrait un livre aussi sur ce sujet, plus autour du yoga, ça peut déjà être une piste.
Bon, bah, on va se mettre au boulot, Alice. Hein. Il n'y a plus qu'à écrire un livre sur ça. Hein.
Mais ça peut vraiment être une bonne idée, je pense.
Peut-être même qu'on va envoyer un petit message à Yoga Alliance pour que ce soit obligatoire dans les 200 heures.
Exactement, exactement. On va devenir intervenante. Moi, j'interviens prochainement dans une formation justement pour parler de ça. Donc, ça émerge. Tant mieux, tant mieux. Et puis, on est peut-être aussi au début d'un truc qu'il faut que nous aussi, on mette en place. Moi, des fois, je me dis ça, je me dis, allez, comme encore cette histoire de est-ce que je peux donner des cours ? Bah ouais, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas encore. Donc, et c'est ce que je dis souvent à mes élèves d'ailleurs. Dites pas que vous n'y arrivez pas, dites-vous que vous n'y arrivez pas encore. Et c'est de se mettre un coup de boost et de se dire, mais je suis légitime de pouvoir proposer des choses, de tester, de voir si ça marche. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et tant mieux, en fait. C'est cool de pouvoir participer à un changement de mentalité ou un changement de vision des choses. Enfin, moi, je suis assez contente de contribuer à ça.
Et alors, les filles, en attendant, où est-ce qu'on peut vous retrouver l'une et l'autre pour pratiquer avec vous ?
Alors, bah, moi, je donne essentiellement des cours en visio actuellement, hein, avec le Covid. Donc, j'ai des cours en visio du lundi au samedi. Et sinon, bah, je donne des cours sur Paris dans le 10e et dans le 11e. Donc, il y a des cours de vinyasa, de yin, des cours aussi pour les débutants, donc qui n'ont pas d'étiquette particulière. C'est plus du yoga débutant. Donc, on peut retrouver mon planning sur mon site smilingyoga.fr.
Donc, je donne les cours avec Gras Politique. Et justement, comme c'est un cours qu'on a repris pendant la pandémie et le couvre-feu et toutes ces joyeuses choses que nous vivons en ce moment, la visio a beaucoup été utile, notamment par rapport aux peurs d'aller dans des studios. Et sinon, bah, moi aussi, en ce moment, c'est 100% visio. Et donc là, c'est plus moi qui communique dessus sur mon compte Instagram, Alice Claire, C-L-E-R-C.
Ouais, je mettrai les références de toute façon de vos sites et comptes Instagram. Merci beaucoup, Juliette et Alice, à toutes les deux pour cet échange super intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec vous.
Merci à toi pour l'invitation.
Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à réagir, notamment sur le compte Instagram @yogaetnouspodcast, et aussi à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi me mettre une note et un commentaire, notamment sur Apple Podcast, ça aidera à me faire connaître. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode autour du yoga.